France Musique.
Carrefour des Amériques.
Une série de Marcel Quilliveré pour les médias francophones publics.
De New York à La Havane, en passant par Vienne, Berlin, Mexico et Grenade, c'est la musique et le monde. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur nos routes américaines qui sont à nouveau des chemins de départ et d'exil. Et nous nous retrouvons d'abord à New York aux États-Unis où tant d'Européens se sont exilés. Et parmi eux, d'immenses artistes et musiciens qui font aussi le voyage à La Havane. Ils connaissent l'excellence de l'organisation féminine Pro Arte Musicale et celle du public havanais. C'est le cas d'Alexandre Borovski, pianiste d'origine russe, devenu citoyen américain en 1941, alors qu'il enseignait à l'université de Boston. En 1948, il a 59 ans, il est invité par Pro Arte et sur la scène du théâtre Auditorium de La Havane. Il joue son compositeur favori, Jean-Sébastien Bach, qui nous ouvre aujourd'hui la route vers Cuba.
Thank you.
Jean-Sébastien Bach, interprété par Alexandre Borowski, comme à La Havane en 1948. À La Havane, où Vienne et Berlin sont décidément sur le devant de la scène cette année-là. Clemens Krauss et Kirsten Flagstad sont à l'affiche. Les guichets du théâtre Auditorium sont pris d'assaut. Clemens Krauss, grand ami de Richard Strauss, avait été durant la guerre l'intendant de l'opéra de Munich. Soupçonné de sympathie nationale-socialiste, il est blanchi en 1947 et un an plus tard, il part en Argentine où il crée la Jeanne d'Arc d'Arthur Honegger au Théâtre Colonne de Buenos Aires. Et c'est de Buenos Aires qu'il vient à La Havane en cette même année pour diriger l'orchestre philharmonique avec en soliste Kirsten Flagstad. En octobre, elle avait notamment chanté les Wiesendonck-Lieder. Ce concert a été enregistré par la radio à La Havane. Elle chante ici Träume, les rêves, le dernier des Wiesendonck-Lieder. Clemens Krauss est au pupitre.
Thank you.
Enregistré sur la scène du Grand Théâtre Auditorium de La Havane, Kirsten Flagstad avec l'Orchestre Philharmonique de La Havane sous la direction de Clemens Krauss. Après ces concerts, Kirsten Flagstad était allée chanter Tristan à Caracas au Venezuela sur la scène du Théâtre National, c'était le 5 et le 7 novembre, puis en concert à Maracaibo le 8. Elle avait retrouvé ensuite Cuba avec toute la troupe le 10 novembre pour commencer les répétitions de Tristan dans une nouvelle mise en scène. Dans la distribution, aux côtés notamment de Kirsten Flagstad et du ténor Max Lorenz, il y avait deux artistes cubains pour les rôles du berger et du marin. À La Havane, c'est l'ancien directeur de l'Opéra de Francfort, Hermann Geiger-Torell, qui était chargé de la mise en scène. Pendant 3 ans, il avait été le directeur de la saison lyrique au Théâtre municipal de Rio de Janeiro, avant de devenir citoyen canadien à Toronto, où il enseignait à l'école de l'opéra. Quant aux décors et costumes, ils avaient été confiés au scénographe cubain Luis Marquez, qui avait réalisé peu auparavant les décors de la ménagerie de verre de Tennessee Williams, une production qui avait eu un grand retentissement et que Tennessee Williams avait beaucoup aimé. Kirsten Flagstad chante ici La mort d'Iseux au Théâtre Auditorium de La Havane sous la direction de Clemens Krauss.
Oh.
2600 personnes dans ce théâtre Auditorium de la Havane pour applaudir Kirsten Flagstad dans Tristan de Richard Wagner. La création de Tristan est restée dans les annales de la vie musicale à Cuba. Toute la société civile avait été sollicitée pour faire de cette soirée un événement inoubliable. Les journaux n'ont pas tari d'éloges sur des pages entières. Tout le monde s'y était mis, notamment pour la production, que ce soit aux costumes, aux décors, aux accessoires. Peu avant la représentation de Tristan, le chef titulaire de l'orchestre philharmonique, Juan José Castro, avait invité le compositeur et chef d'orchestre mexicain Carlos Chavez pour diriger le 10 octobre le concert donné à l'occasion de l'investiture du nouveau président cubain, Prio Socarrás, qui avait d'ailleurs déclaré publiquement qu'il allait soutenir non seulement l'orchestre mais toute la culture cubaine en général. Un concert de gala dans un théâtre auditorium de nouveau bondé et qui possède enfin l'air conditionné. Un programme au cours duquel Carlos Chavez avait créé à Cuba la suite de son ballet « Horse Power », « Caballos de Vapor » en espagnol, « Les chevaux vapeurs » en français. C'est en 1932 que Carlos Chavez avait eu l'idée de ce ballet en découvrant les fresques murales industrielles que le peintre Diego Rivera réalisait à Détroit. Il y avait vu la lutte entre la culture profonde du Mexique et les forces telluriques contre le progrès industriel et les machines. Il avait alors proposé à Diego Rivera de créer les décors de ce ballet que Leopold Stokowski a créé à l'Opéra de Philadelphie en 1932. Et c'est un Mexique très tropical que Rivera et Chavez ont finalement exalté dans cette œuvre chaleureusement accueillie par le public havanais en octobre 1948.
Thank you.
Et le bateau vogue sur la mer des Antilles dans ce ballet de Carlos Chavez, Les Chevaux Vapeurs. Eduardo Mata dirigeait ici l'orchestre Simón Bolívar de Caracas. En cette fin des années 40 à Cuba, le ténor le plus populaire, c'est René Cabel. Ses boléros sont sans arrêt sur les ondes et c'est une telle vedette de la radio, des cabarets, des théâtres que le président de la République, Prio Socarrás, décide de lui rendre hommage lors des concerts qui ont entouré son investiture. À cette occasion, il demande à tous les grands chanteurs qui sont alors à Cuba, les Cubains, les étrangers, de venir se produire sur la scène du théâtre Auditorium en même temps que René Cabel. C'était le 17 décembre 1948. Il y a dans la vie, chante René Cabel, des amours qu'on ne peut effacer, des amours qu'on n'oublie jamais, inolvidables.
Imborrables momentos que siempre guarda el corazón, porque aquello que un día nos hizo llorar de alegría, no es posible que hoy pueda olvidarse por un nuevo amor. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades, y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos, que inolvidablemente vivirán en mí.
La voix du ténor cubain René Cabel nous ramène à l'opéra. Étant donné le coût de la production de Tristan de Wagner, en cette année 1948, la saison lyrique s'est limitée à la production d'un seul autre ouvrage, Madame Butterfly. Le rôle était interprété par la soprano mexicaine Irma González, qui avait fait ses débuts en 1941 dans la flûte enchantée de Mozart au Palacio de Bellas Artes à Mexico. Irma González a été la grande soprano de ce qu'on a appelé l'âge d'or de l'opéra au Mexique dans les années 40 et 50. Le chef d'orchestre Bruno Walter la connaissait bien. Il l'avait invitée à New York pour enregistrer sous sa direction la 9e symphonie de Beethoven. Mais son grand rôle a été avant tout Madame Butterfly, qu'elle a chanté sur les plus grandes scènes. Irma González chante ici le duo du premier acte avec le ténor mexicain Julio Julián, un enregistrement réalisé à Mexico quelques années après les représentations de la Havane.
Yeah.
Carrefour des Amériques, une série de Marcel Quilliveré pour les médias francophones publics.
Irma González et Julio Julián dans ce duo du premier acte de Madame Butterfly de Giacomo Puccini. Après l'Autriche, l'Allemagne et toute l'Amérique latine, il était normal que l'Espagne revienne enfin à Cuba comme tous les ans. En automne 1948, le saxophoniste flamenco Fernando Vilches, qui avait fui la guerre civile espagnole et qui vivait à l'époque au Mexique, fait plusieurs fois le voyage à La Havane. En septembre, il est sur la grande scène du théâtre América dans le spectacle qui est présenté entre les séances de cinéma. En Espagne, il avait été le rival du saxophoniste cubain El Negro Aquilino, qui jouait aussi du flamenco au saxo et qui était, lui, revenu à Cuba après la guerre civile. On écoute Fernando Vilches, accompagné ici par le guitariste Ramón Montoya, dans une colombiana flamenca. Avec Fernando Vilches au saxophone, la saison ibérique avait superbement commencé à La Havane. En décembre 1948, débarque le ballet espagnol d'Ana María. Ana María fait appel à présent à des œuvres musicales de grands compositeurs espagnols. Dans la fosse, un orchestre, et sur scène avec elle, le guitariste Carlos Montoya, le neveu de Ramón Montoya. Le 27 décembre, par exemple, deux grands ballets à l'affiche. Le Tricorne de Manuel de Falla et La Madrugada del Panadero, le boulanger au petit matin, composé par l'Espagnol Rodolfo Halfter sur un livret de l'écrivain José Bergamín, tous deux en exil au Mexique. Et comme Manuel de Falla, il s'était inspiré pour ce ballet de l'Espagne du XVIIIe siècle. Thank you. Le ballet de Rodolfo Halffter était interprété ici par l'Orchestre de Philharmonique de la ville de Mexico sous la direction de Luis Herrera de la Fuente. En 1947, Batista est toujours au pouvoir et il est encore soutenu par les couches les plus modestes de la population cubaine, car il a mis en œuvre des réformes qui sont parmi les plus avancées d'Amérique latine. Mais déjà, la dérive est grave. Le Parti communiste cubain qui a participé au gouvernement de Batista de 1940 à 1944 le soutient toujours, mais ce parti n'a pas la confiance des ouvriers ni des paysans. En pleine période de guerre froide, l'immense majorité des Cubains n'a aucune sympathie pour l'Union soviétique. Et puis depuis plusieurs années, Cuba connaît une guerre de gangs, des mouvements de gauche et d'extrême droite qui justifient l'assassinat de leurs opposants par un désir de justice sociale. Ces gangs sont particulièrement influents sur le campus de La Havane, où les différends se règlent à coups de pistolet. D'ailleurs, l'étudiant en droit Fidel Castro, qui en fait partie, entre toujours armé à l'université. En 1947, il est déjà un tribun remarquable. Passionné par le populisme du général Perón en Argentine, il déclame des discours violemment nationalistes du haut du grand escalier de l'université. Son charisme puissant enflamme de plus en plus les jeunes, et notamment les jeunes artistes et musiciens, en particulier les compositeurs du groupe de rénovation musicale, et parmi eux, Edgardo Martín, qui compose en 1947 une série de fugues pour orchestre à cordes qu'Alicia Alonso va chorégraphier pour son ballet. Dans la guerre des gangs, le jeune Fidel Castro doit souvent se cacher. Et puis, tenez-vous bien, il va se réfugier, et ça paraît incroyable aujourd'hui, aux États-Unis. Et puis à Cuba, il a un grand rival qu'il ne supporte pas, c'est Eduardo Chibas, qui est devenu l'homme politique le plus respecté des Cubains. Cuba jouit à l'époque de l'une des constitutions les plus progressistes d'Amérique latine, et j'ose le dire, du monde même. La liberté de la presse est une réalité, mais les injustices sociales restent considérables entre les propriétaires terriens, comme le père de Fidel Castro, et les paysans, les grandes compagnies américaines et les ouvriers du sucre. Chibas lutte contre la corruption. Et alors que le Parti communiste veut se rapprocher de lui, il déclare qu'il ne s'alliera jamais, et je le cite, avec les défenseurs de Staline et avec un parti qui a pactisé avec deux dictateurs, Machado et Batista. La fugue d'Edgardo Martín pour accompagner celle de Castro. C'était l'orchestre Brindis des Salas. Par bonheur, la vie musicale est un havre de paix dans cette Havane secouée par la violence politique. En décembre 1949, le pianiste Vladimir Horowitz revient pour la deuxième fois. Cela fait des mois qu'il travaille aux États-Unis la sonate pour piano que le compositeur Samuel Barber lui a dédiée et qu'il est en train de terminer en collaboration avec son interprète. C'est plutôt un accouchement dans la douleur. C'est avec une espèce de rage d'ailleurs que Samuel Barber écrit la fugue finale, qui reste aujourd'hui encore un défi technique pour les pianistes. Cette fugue, disait Samuel Barber, c'est un moteur lancé à plein régime. Et Vladimir Horowitz s'y investit pleinement, d'autant plus que c'est la première œuvre américaine qu'il va créer. Il affirme ainsi avec fierté la citoyenneté américaine qu'il a acquise. Pour le baptême du feu, il choisit la Havane. Horowitz a beaucoup aimé le public havanais et c'est le cadre idéal pour se lancer dans une telle aventure. C'est donc à la Havane le 9 décembre 1949 qu'est créée la sonate de Samuel Barber avec un succès qui enthousiasme le pianiste lui-même. La création publique aux États-Unis a lieu le 11 janvier 1950 à Washington.
Thank you.
Après Vladimir Horowitz et la sonate de Samuel Barber, place à présent à la musique populaire cubaine avec la danse du mambo qui fait toujours fureur à la Havane. Le pianiste Bebo Valdés aimait dire que c'était bien Israel López, qu'on appelle Cachao, qui avait déjà imaginé le premier mambo en 1937. C'est lui qui avait désarticulé la dernière partie du danson cubain pour en faire le premier mambo. Pendant 10 ans, disait Bebo Valdés, ce sont les Noirs qui ont dansé sur cette musique. Et puis le chorégraphe du cabaret Tropicana est parti au Mexique avec les danseuses, les mulâtresses de feu, et c'est au Mexique que le mambo a connu son apothéose. C'est au Mexique, en effet, que le pianiste cubain Pérez Prado a donné sa forme définitive au mambo qui a bientôt fait le tour du monde. Pérez Prado l'a souvent raconté, et je le cite. « Mon avenir était au Mexique, me disait-on, alors que je gagnais très bien ma vie à Cuba, je suis parti vivre là-bas. » À mon arrivée, en octobre 1949, l'actrice cubaine Ninon Sevilla y habitait, et elle m'a offert l'hospitalité. Moi, je lui faisais les arrangements musicaux de ses films. Cette même année, j'ai enregistré pour la RCA un disque qui a été présenté à New York. On m'a dit que c'était très en avant sur ce qui se faisait. Et on m'a demandé si je pouvais faire quelque chose de plus populaire. J'ai alors enregistré un 78 tours avec 2 morceaux que j'ai intitulés comme ça, Mambo que rico mambo et Mambo numéro 5. Eh bien, c'est avec la fièvre du mambo qu'on va se quitter aujourd'hui, une fièvre bien plus ardue à interpréter et surtout à danser qu'il n'y paraît. Mambo, que rico el mambo! C'est en dansant qu'on se quitte aujourd'hui pour se retrouver, bien sûr, dans le prochain épisode de Carrefour des Amériques, une émission des médias francophones publics réalisée par Géraldine Prutner et Cédric Chatelus, une émission qu'on peut écouter et réécouter en podcast.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.